Quentin?
Ça roule?
Ouais, ça va super.
Bon, et ben bienvenue du coup à toi et à tous sur Active Worker. Là, on lance un nouveau concept, c'est le concept des interviews. Et l'idée, c'est du coup d'aller à la rencontre d'active workers dans la vie réelle. Vous en aviez un que vous voyez que sur toutes les vidéos et il y en a plein d'autres. Et voilà, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est on va interviewer Godefroy, qui est du coup le fondateur de Joinit, le cofondateur de Joinit. Et du coup, je te propose, peut-être tu peux nous expliquer le concept. Voilà. Ou qui es-tu avant ça? Peut-être
ouais.
Qui es-tu, ça nous...
Godefroy, cofondateur de Joinit. En fait, c'est marrant parce que Quentin, on se connaît depuis longtemps, on a fait notre école d'ingénieur ensemble et on avait toujours eu, on a fait des listes BDE, on a fait plein de choses associatives ensemble et on avait toujours eu cette passion pour en faire plus et un peu au-delà des règles qui étaient fixées. Et je pense que c'est pour ça que je suis vraiment content de faire cette interview pour Active Worker parce que c'est quelque chose qu'on partage ensemble. Et moi, de mon côté, j'ai lancé Joinit avec un autre ami de Centrale aussi. Et Joinit, c'est un outil pour gérer, créer et promouvoir tout ce que ces activités et ces événements pour sa communauté en fait.
Ok.
Donc on en reviendra après dessus, je pense,
D'accord.
Mais voilà un peu
Et avant ça, t'avais fait quoi en gros, en deux mots, sur ton parcours
Après l'école d'ingénieur, j'ai monté ma première startup dans la tech. Au final, on a fini en agence web. Après, j'ai fait un master spé à l'ESCP à Paris. Ensuite, j'ai bossé chez Suez dans la performance des industries. Ensuite, j'ai fait du conseil pendant 2 ans dans la performance des entreprises cette fois-ci. Et après, j'ai monté Joinit. Voilà.
Ok.
Très rapidement.
D'accord. Et alors, donc, Joinit, ça part d'une idée de gérer une communauté. Toi, t'en gères depuis longtemps des communautés. Quand est-ce que tu as eu l'idée? Comment ça t'est venu? Comment tu as commencé à bosser dessus?
En fait, le constat, il est assez simple. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde est pris dans un engrenage fou de sa vie quotidienne. Il y a une guerre pour l'attention. Comment on peut capter l'attention des gens et tout le monde s'efforce de le faire. Et donc, on utilise plein de canaux différents. Et donc, en fait, quand on a une communauté, créer de l'engagement, créer de l'action c'est auprès de ses membres, c'est pas forcément évident. Les outils qu'on avait et qu'on a trouvés et qu'on exploite sont pas super adaptés. Des fois, c'est peut-être trop personnel. On peut utiliser des outils très très personnels, donc du coup, on n'a pas une communication qui est adaptée par rapport à sa communauté ou son association. Des fois, c'est trop professionnel, donc on est limité par son environnement où on peut s'adresser que à des gens de son environnement professionnel. Et donc, du coup, l'entre-deux n'est pas forcément adapté. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé Joinit, parce qu'on est convaincu qu'on peut faire un outil, un service qui soit vraiment super pour des gens qui animent et qui font vivre leur communauté. Et donc, avoir cet entre-deux. Donc,
Okay.
comment on a fait? C'est un réseau social, donc tout l'aspect personnel que tu peux retrouver avec des outils de type plus professionnel, avec du calendrier, avec des outils de promotion et de gestion
D'accord.
Qui permettent d'aller captiver et d'avoir communiquer avec son audience
Okay.
le plus facilement possible.
Donc du coup, si en gros c'est un Facebook event privé et où il y a un calendrier où en fait je peux faire tout comme sur Facebook ou
c'est une belle image. Facebook Event, c'est super dans ta vie personnelle.
Ouais.
Et donc, toi, Quentin, je pense que tu fais pas forcément beaucoup de Facebook Events, peut-être pour ton anniversaire ou une crémaillère ou à un moment donné, mais quand tu vas au ciné ou quand tu vas faire du sport ou quand tu vas faire d'autres activités un peu plus personnelles, il me semble pas avoir vu que tu publiais sur Facebook ou que
Ouais,
tu faisais
absolument.
des
Ouais.
Facebook Events parce que c'est pas forcément adapté. C'est pas un outil ou c'est un réflexe où tu vas te dire tiens, je vais faire ça. Et puis peut-être que tu as un peu peur aussi que quand tes potes ils vont voir ton post, tiens, je vais faire un running sur Facebook, tout le monde se dise bah, en fait, il a pas de potes, Quentin, il cherche des potes,
Ouais.
pourquoi il a posté ça là
Et donc là, il y a une version un peu individualisée de Joinit où tu dis je vais courir
Ouais.
et voilà, je vais faire une interview. Tac, je le mets et en fait, vient qui veut ou alors j'informe juste sur ce que je fais.
Exactement, ouais, c'est vraiment l'idée, c'est que nous, on fait que des activités pour les personnels ou des événements, quand on est plutôt une communauté ou une
Okay.
entreprise ou ce genre de choses. On distingue un peu les deux. Donc au final, nos utilisateurs principaux sont quand même des organisateurs, donc ceux qui vont créer du contenu, et on a des utilisateurs finaux qui sont des gens qui vont
Comme
être sur
toi et moi qui
l'application, qui vont
sont.
participer à l'événement, qui vont interagir.
Ok.
Et en fait, on leur a donné tous les outils aussi pour faire leurs activités personnelles.
Ok.
Donc c'est là où est la force un peu du système, on pense que c'est assez valorisant, c'est qu'en fait, on arrive à avoir ton écosystème personnel,
Ouais.
où tu peux vraiment gérer t'as un peu ta vie sociale, toutes tes activités personnelles. C'est que pour toi. Et c'est ton environnement. Et au-delà de ça, tu t'abonnes, un peu comme sur des réseaux sociaux comme Instagram ou sur Twitter, à des organisateurs, des communautés. Bonjour.
Bonjour.
Ah, vous êtes ici aujourd'hui?
Encore?
Ouais, ça va?
Il y a quelqu'un qui a laissé
des messages de balcon à ouvrir. Par exemple, c'est lui qui m'a dit. Ok. Donc, il ne faudrait pas ouvrir les messages. Ouais, c'est si il y a un appli ou il y a.
Bonne journée.
Bonne journée. On coupera pas. Hein. Je m'en fous, je sais pas. Enfin, accélère, mais on comprend pas.
Mais du coup, je disais, c'est effectivement, donc tu as ton espace personnel
Ouais.
et tu t'abonnes à ta communauté
Ouais.
ou des gens qui t'intéressent, qui veulent pousser leurs activités, leurs événements. Et ça, c'est dans ton fil. Et donc, du coup, tu peux voir tout ce qui va se passer dans ton environnement personnel mélangé avec d'autres trucs
OK.
qui peuvent être un peu plus professionnels ou liés à ta communauté.
OK.
Ça, c'est vraiment la philosophie du
Ok.
produit.
Et du coup, je pense qu'on a bien saisi, c'est voilà, un outil de gestion de communauté et derrière, tu as la même chose, mais côté individu pour organiser tous tes événements, etc. Si on parle plutôt de la construction de l'idée, c'est-à-dire le MVP initial, l'idée initiale, est-ce que ça partait plutôt de la communauté ou plutôt de l'individu? Et en fait, l'autre question qui va intéresser tout le monde, c'est quel a été le cheminement en fait? Est-ce que c'est une idée que tu as eue à la fin de ton expérience de conseil ou est-ce que tu l'as eu dès l'école ou même au lycée déjà tu te disais ah j'ai envie de faire ça? En gros, comment t'es parti et comment t'as construit petit à petit l'idée voilà, comment les gens ont nourri ça et comment enfin ce truc-là, j'imagine que c'était pas ça il y a 2 ans.
Non, c'est sûr. Ouais, il y a du chemin qui a été parcouru et qui est assez long. L'idée de base, c'est ouais, on a tous dans soi son environnement. Et c'était plus
C'était quand
parti
que tu as commencé à
c'était au
mûrir
moins
ça?
il y a ouais, 4 ans, 5 ans. Ça,
4-5 ans.
enfin, même déjà à l'école, quand on était dans notre réseau, dans notre environnement, et on avait beaucoup d'associations, on voulait tous participer à plein de trucs, on avait vraiment plein d'événements, et puis il n'y avait pas forcément d'outils, et puis c'était beaucoup de bouche à oreille. Et donc c'était bien, ça marchait bien. Mais dès qu'on a commencé à être un peu plus. Il y en a qui étaient en stage par-ci, il y en a qui allaient travailler par-là, et de suite. Du coup, on avait moins cette proximité, donc on n'avait plus cette attention, on n'avait plus accès aux informations comme on le faisait.
Ok.
Donc c'est aussi ça l'enjeu, c'est d'arriver à donner l'information au bon moment aux personnes et pas forcément que du contenu poussé et
Ouais.
dire aux gens viens à mon truc, viens à mon truc, mais aussi eux ils peuvent en fait le voir et venir d'eux-mêmes participer ou à interagir avec le contenu.
Ok.
Ça, c'est une grosse différence. Hein. Mais donc le cheminement, le constat était assez basique, c'est que on a démarré et on s'est retrouvé un jour d'ailleurs avec mon cofondateur, on avait fait un footing tous les deux dans le parc de Versailles et c'était une journée magnifique, c'était le début du printemps, on avait fait un petit effort et on avait vraiment apprécié. Et on s'est dit, bah vas-y, viens, on va se le garder, on va faire une petite photo. Et tu la postes sur les réseaux sociaux, c'était sur Facebook. Et en fait, on s'est dit, mais c'est genre juste, ok, mais c'est bête en fait, parce que mes amis qui vont voir cette photo, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est liker. Donc, ok, moi j'ai gagné un like, bon, ok, ça me fait plaisir, mais ça ne fait rien.
Ça
Et
flatte ton ego, quoi, on va dire.
ouais,
Ça flatte
voilà.
l'ego.
D'autre part, ils peuvent commenter et qu'est-ce que ça va être? Les commentaires sont, c'est ah bah si j'avais su, j'aurais pu venir. Ah bah pourquoi tu en as pas parlé? Ah bah c'est trop dommage, j'aurais bien aimé. Et en fait, bah, vu que c'est après coup, effectivement, ça crée un peu une frustration parce que tu te dis bah ah ouais, on aurait pu le faire ensemble, j'aurais pu venir, on aurait pu faire ce truc-là. Et donc nous, on s'est dit bah ouais, effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, la majorité des réseaux qu'on voit, on n'appelle pas ça pour rien des fils d'actualité. C'est parce qu'en fait, ce qu'on te montre, c'est le passé, quoi.
Ouais.
Maintenant, tu as les stories, tu as le Facebook Live, tu as plein d'outils qui ont été rajoutés, qui vont te montrer le présent. Mais c'est encore plus frustrant parce que c'est en train de se passer et tu le découvres, c'est en train de se passer.
Ouais, t'as
Et
pas,
là, tu dis, bah, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je viens pas. Et, ok, tu peux participer en mettant des commentaires, mais c'est pas vraiment ça qui fait que. Enfin, tu diras jamais ouais, hier soir, samedi soir, j'ai passé une soirée incroyable sur Facebook.
ouais.
Non, tu t'as vu des trucs sur Facebook, mais en fait,
T'as vu
non.
un live à la limite, mais
Parce que.
tu pouvais être frustré de te dire, ah, j'avais pas vu qu'il y avait cet event et je l'ai vu de loin et en fait c'est.
Ce que tu préfères et tes meilleurs souvenirs, c'est quand tu es toi-même en train de vivre le moment présent avec tes amis, avec des membres, avec ta communauté, et tu fais quelque chose, quoi. Tu es
Ouais.
actif dans la vraie vie et tu n'es pas derrière ton écran à liker ou poster des commentaires, quoi.
Ok.
Donc c'était vraiment ça l'outil, et nous, on est assez convaincus que une communauté, si elle veut avoir un impact fort, si tu veux donner une opportunité d'engagement auprès de tes membres, c'est en les informant, en leur communiquant de la bonne manière tous les futurs événements, toutes les futures activités qui vont
Ouais.
arriver, et que là, bah voilà, il se passe quelque chose. C'est
Ok.
un peu, c'est vraiment ça la force du truc et qui va générer de la réussite et
Ok.
de la satisfaction d'appartenir à cette communauté. Au final, tu appartiens à ta communauté. Et
Ouais.
comment tu appartiens? C'est pas que en faisant des petites actions, c'est en y allant, en participant. Et c'est ça qui fait que tu as vraiment sentiment d'appartenance.
Ok.
Donc c'est comme là, Active Worker, je me sens part de la communauté parce que c'est on a cette interview ensemble et c'est génial quoi.
Ok, ça marche.
Donc on a bien démarré plutôt personnellement sur l'aspect personnel et puis en avançant, en développant le
Donc au début, c'était
produit.
plutôt, tiens, je vais créer une appli où, en gros, je vais pouvoir la distribuer à mes potes pour savoir quand est-ce qu'on va au ciné, quand qu'on se fait une bouffe, quand est-ce que
Ouais, exactement.
on se fait un footing, un truc comme ça.
Exactement, ouais.
Et comment tu l'as créé cette appli au début? Enfin,
Bah,
comment vous l'avez créé? Je sais plus.
ouais, on était tous les deux avec mon cofondateur. C'était assez simple. En fait, on a commencé à vraiment se poser le problème et se
Ouais.
dire qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme solution. Et puis, on a décidé avec papier-crayon. Puis après, on s'est fait un petit PowerPoint pour
Ouais.
poser un peu deux, trois trucs. Et assez rapidement, en fait, moi, j'avais regardé. Il y a des outils en ligne très faciles et très pratiques, un peu comme des PowerPoint avec des modules d'application qui permettent de les placer sur un écran, de les copier, de les
T'as
coller.
un exemple de l'outil, par exemple,
Ouais,
c'est quoi?
moi, j'utilisais proto.io,
Ok.
proto.io.
Ouais. Ok.
Il y a
Ça
une
te fait une
version
mock-up en
gratuite.
fait,
Voilà, exactement. Ça te
voilà.
fait ton mock-up d'application. Tu peux commencer à travailler
Ouais.
dessus. Et au début, bah, tu mets juste des formes, tu sais, c'est les filigrammes en fait. Tu ne t'amuses pas à faire du design ou quoi que ce soit. Tu mets juste les objets, tu regardes l'information, est-ce que c'est ça? Tu peux commencer à créer des interactions
Ouais.
et même après tester sur ton téléphone ton mock-up.
Ok.
Et donc du coup, tu te rends compte un peu qu'est-ce que ça pourrait donner en fait.
Ok.
Et puis on en a parlé à plein plein de gens en fait. Je pense que le meilleur truc à faire, c'est. On dit beaucoup. Quand tu as ton idée, surtout n'en parle pas, on va te la piquer, machin et tout. Non, ça, c'est n'importe quoi. En fait, il faut en parler parce que c'est là où tu vas avoir plein de retours et puis d'avoir des retours très constructifs, d'autres un peu moins. Et puis tu as des gens qui vont dire, moi, tu n'y arriveras jamais, laisse tomber, machin. Je
Ouais.
t'en fous. Si toi, tu y crois, et je pense que quelqu'un qui veut se lancer dans son projet personnel, bah, il y croit et il va faire en sorte d'y arriver. Et bah, il faut qu'il rencontre et il échange avec le plus de
Ouais.
gens possible. Ça va orienter son projet. Et nous, effectivement, cet aspect communautaire, travailler plutôt avec finalement des entreprises, avec des grosses associations ou des petites associations, c'est venu par la suite.
OK.
C'est venu à force d'en parler, à force de rencontrer des gens, à force de participer
OK.
à des conférences, à faire des talks aussi pour dans les écoles, auprès de communautés.
Et là, si on va sur la première version de l'appli,
Ouais.
c'est toi qui l'as codé du coup ou tu l'as codé comment?
Après qu'on a fait le premier
La première maquette,
mock-up
voilà,
sur
avec
proto.io,
proto.io.
ouais, j'avais codé un peu avant, donc c'était pas trop difficile pour moi de le faire. Sachant que j'avais utilisé des frameworks. Frameworks, c'est des bibliothèques de code qui permettent de réaliser des choses simples
Voilà.
sans avoir de rentrée de détails.
Là, c'était Meteor, non, que tu avais utilisé à
J'avais
l'époque.
utilisé Meteor.js à l'époque, effectivement. T'as une super mémoire
Eh
d'ailleurs,
ouais.
c'est bon ça. Meteor.js, ouais, très bon framework qui permet de se concentrer plus sur la partie qu'on appellerait front, donc ce qu'on va voir sur l'écran, et de laisser Meteor gérer le bac
Ouais.
dans la plus grosse partie du cas. Ça permet de faire vraiment les écrans simples du début de
Ouais.
l'application. En fait, nous, ça nous a permis surtout d'avoir pas forcément. On avait une première version, donc c'était pas exceptionnel. C'était même carrément naze. Mais non, c'est
Non
vrai
mais
quand
c'est alors
c'est vrai quand tu y repenses,
c'était peut-être carrément naze, mais vous êtes réussi à monter à 300 utilisateurs ou 1000
Ouais,
utilisateurs?
après, bah, du coup,
C'était cet ordre de grandeur là, je m'en
on
souviens.
était, ouais, on avait passé les 1000.
Passer les 1000, ouais. Donc il y avait quelques problèmes de stabilité, mais elle fonctionnait en fait.
Ouais, ça fonctionnait. On avait carrément notre MVP et c'était génial.
Ok.
Mais et ça nous a permis d'aller faire notre première levée de fonds.
Voilà. Donc en fait, ok, donc tu crées la première version, tu vas faire la levée de fonds. Donc la levée de fonds, en gros, faut avoir. Enfin, comment tu racontes ton histoire du coup, la première étape aux investisseurs, à ce
C'est
niveau-là?
donc déjà nous la première levée de fonds c'était du love money on va dire.
Ouais.
On appelait ça plus du smart money. Pourquoi? Parce qu'on s'était dit et par mes expériences précédentes, le love money c'est quand même compliqué, c'est un peu dangereux. Pourquoi? Bon, c'est très personnel je pense, mais quand on demande de l'argent à sa famille ou à un proche, ils connaissent les risques, mais en fait ils les acceptent. Et ils sont, on va dire, cléments souvent. Ils vont pas t'amener à te pousser pour que tu réussisses au-delà de ce que tu dois souvent générer, en fait.
En gros, je te file 1000 euros, mais je me dis que c'est perdu et que, enfin, comment dire, que je t'en voudrais pas.
Voilà, vu que tu es un
Et
proche.
en fait, finalement, je suis content pour ton projet, mais je suis pas forcément la personne utilisatrice et cliente. Donc en fait, je vais pas te pousser à sortir le truc, quoi.
Ouais, c'est. Et puis, si t'as vraiment cet aspect, ben, on est amis, on est proches, c'est de la famille. C'est dur d'aller voir quelqu'un et dire, finalement, t'es mauvais, ton truc, il marche
Ouais.
pas. Il faut que tu essayes de changer ci, de changer ça, t'en es où, te mettre la pression. Alors que quand c'est des personnes vraiment extérieures, nous, c'était beaucoup de notre réseau professionnel, des anciens collègues, des managers ou des personnes qu'on connaissait vraiment plutôt à titre professionnel. Oui, on se connaît, mais d'un autre côté, ils vont te dire, allez, vas-y, faut que ça sorte, ça va pas, non, faut que tu changes ça, faut que tu fasses ci. Ils sont beaucoup plus engagés, peut-être souvent, et plus directs ou plus francs
Ok.
que quelqu'un qui peut être très proche de love money, en fait.
Ok.
Donc voilà, après, tu peux faire aussi des crowdfunding, qui sont
Ouais.
des outils super. Il n'y a pas besoin d'avoir une application faite ou d'avoir son produit qu'on peut essayer. On peut démarrer si on a besoin de financement, ça dépend de tous les projets. Hein. Nous, c'était un projet IT, donc il
Ouais.
faut forcément commencer par bien définir le service. Moi, il y a un truc que je dis assez souvent aussi, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de vendre un truc que tu n'as pas encore.
Ouais.
Et c'est
De
justement comme
vendre
ça que
avant
tu vas peut-être
de.
voir ton marché, et puis tu vas dire, bah, en fait, personne ne veut m'acheter ce truc-là, bah, c'est qu'il y a une raison. S'il n'y a pas de client, c'est que ça ne va pas le faire. Donc nous, ça nous arrivait plusieurs fois de vendre des fonctionnalités ou des besoins que certaines qu'on avait identifiés, qu'on avait vraiment travaillé, avant même qu'on ait
Ouais.
l'outil, enfin la feature ce qui était
Soleil, ouais.
disponible sur l'application. Et on disait, bah oui, effectivement, ça va arriver dans un mois, 2 mois, 3 mois,
Ok.
le temps qu'on la fasse. Mais au final, cet aspect, bah, les gens étaient déjà engagés et ils commençaient à suivre et ils commençaient à être intéressés. Et après, ils te posaient des questions, quand est-ce que ça arrive? Et ainsi de suite, donc ça t'amène à avancer dans
Ok.
la bonne direction. Il ne faut pas avoir peur de ça.
Mais donc du
Et
coup,
puis, il y a aussi des
ouais.
fonctionnalités où on se disait, ouais, ça pourrait être génial. On a essayé de la vendre, d'en parler. Ça faisait écho nulle part, ça ne faisait pas de
Ouais.
retour. Donc tu
Et
dis, bon.
donc du coup, les investisseurs de base, c'était plutôt donc des collègues, mais qui le faisaient en mode pro, c'est-à-dire qu'ils se disaient, ils voulaient avoir un peu un retour sur investissement
Bien sûr. Ah, ouais.
et c'était pas.
C'était pas du don en tant que tel.
Voilà. C'était pas un Kickstarter en mode mettez ce que vous voulez.
Ben, on a structuré une société, donc on a vendu des capitaux, donc eux ils sont actionnaires
Ouais.
de la société. Donc c'est vraiment du fonds,
Ouais.
du business angel. Et donc, ouais, ils veulent revoir, je pense, le fruit de leur
Alors,
investissement.
investissement.
Et au-delà de ça, vu que le risque est tellement élevé et que c'est au tout début, ben, ils adoraient le projet. J'ai eu des retours de certains de mes collègues ou des anciens managers ou des personnes avec qui j'ai travaillé, même des anciens clients, qui m'ont dit, ouais, c'est super, j'adorerais bosser avec toi, mais bon, ce projet-là, ça ne m'excite pas trop,
Ouais.
mon truc, on aura peut-être d'autres occasions, c'est pas grave.
Ouais.
Et ouais, il faut aussi que le projet, les gens,
ils adhèrent
à l'idée, ils trouvent ça bien, ils ont envie de le voir et de l'utiliser, quoi.
Okay.
Donc c'est ça qui est top.
Okay.
Donc c'était un premier pas, et donc c'est ce premier, cette première levée de fonds nous a donné assez d'argent pour acheter des prestations, en fait.
Ouais, toi aussi, okay. T'es toujours grâce. Du coup, on parlait des investisseurs et tu disais que là, ça t'a permis de te lancer dans la…
D'acheter,
de choper des prestations.
Ouais, de commencer à acheter des prestations. Parce qu'en fait, quand on a démarré le projet, on avait tous, moi aussi et moi, notre job. On n'avait pas quitté notre job.
Ouais.
On le faisait en temps masqué, donc le soir, le week-end. Et en fait, nous, oui, vu que c'est un service tech, il faut développer. Et donc, il faut des développeurs, il faut du temps de développement. Et donc, du coup, cette première levée de fonds nous a permis d'acheter ce temps de développement et de faire développer un peu plus notre service.
Okay.
Donc, nous, on avait continué de vraiment travailler bien sur le besoin, le comprendre, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui ne va pas bien, comment on l'adapte, on refait un peu les écrans, les boutons, ainsi de suite. On testait beaucoup le produit.
C'est quoi la première prestation que tu as achetée?
C'est vraiment un développeur full stack JavaScript.
Il était en France du coup.
Et en fait, on a fait un truc, et ça c'est une expérience qu'on avait eue ensemble d'ailleurs. On a fait avec une junior entreprise.
Ok. Donc c'était qualifié.
Pour ceux qui connaissent pas, junior entreprise, c'est des entreprises dans les universités ou écoles de commerce ou écoles d'ingénieurs. Qui réalisent des missions pour des clients. Donc, c'est des étudiants qui ont des compétences et qui vont pouvoir réaliser des missions. Et nous, dans le cadre de… et donc, on peut travailler avec des développeurs étudiants dans le cadre d'une mission. Donc, il y a un cahier des charges, il y a vraiment des processus à respecter. Et des étudiants peuvent réaliser cette mission. On a déjà fait appel plein de fois à des juniors entreprises.
Et comment tu le sélectionnes quand c'est comme ça
Il faut faire un appel d'offres.
Ouais.
Il faut contacter plusieurs juniors entreprises, voir celles qui finalement trouvent des étudiants qui sont capables de mener à bien la mission.
Ouais.
Et après, c'est parti pour la mission, quoi.
Okay.
Donc, les juniors entreprises, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Ils ont des prix qui sont assez cool. Et ça permet de travailler avec des étudiants ou des jeunes qui sont à la fois un peu formés, mais aussi qui ont envie d'aller plus loin et d'avancer.
Ouais.
Et donc, c'est vraiment des belles expériences. Ils vont faire des très, très belles missions avec les gens entreprises. Quelque chose que je recommande. Un bon tips, pas mal.
Donc,
ne serait-ce qu'une étude de marché.
Là, le mec, il avait à l'époque, c'était Meteor et il a dû se fixer du coup à cette première partie technique.
Ouais, il a continué le développement de l'application, notamment parce que mes compétences s'arrêtaient.
Arrivaient à leurs limites.
Voilà, exactement. Du coup, c'était super d'avoir quelqu'un qui puisse continuer le projet et faire développer le produit. Donc ça a duré pas mal de temps au final, à peu près 6-7 mois.
Hein, okay.
Donc là, on a bien avancé et on a pu arriver à avoir une application sur les stores, Apple Store et Android Store, disponible.
Ouais.
Et donc, on a été à notre deuxième levée de fonds.
D'accord.
Une fois qu'on avait des applications sur les stores. Ouais.
Et donc là, ça, pour le coup, c'était toujours du Meteor qui te permettait de créer des applications natives, mais avec une seule techno, c'est ça?
On avait…
Ou tu avais déjà basculé sur…
Pas encore, non. On avait encore on avait beaucoup d'hybridation.
Ouais.
L'hybridation, c'est que ce n'est pas du code natif comme on l'a sur les téléphones. C'est des gens qui ont codé du natif et puis pour le rendre commun aux autres. Et puis après, tu peux rajouter encore d'une hybridation à cette hybridation parce que ça reste du code dans un certain langage. Et après, tu peux rajouter un autre langage par-dessus qui est encore plus simple,
d'accord,
qui est encore plus gros et qui permet de réaliser plein de sous-fonctions.
Ouais.
Donc, c'est ça ce qu'on appelle l'hybridation. Ça permet de vraiment tout encapsuler et de remonter pour faire des appels très simples à des fonctions. Et donc, nous, on avait Meteor.js pour tout ce qui était… on va dire le front-back, donc ça gérait vraiment tout ce qui était côté serveur. Et en front, on avait pris juste du Bootstrap ou du Material Design pour Android qui générait nos architectures front, quoi. Rien d'exceptionnel.
Okay.
Et après, on a un service qui est assez simple et assez basique. Donc pour le moment, c'était.
Pour le moment, ça fonctionnait. Donc là, du coup, et cette deuxième levée de fonds, elle t'a permis du coup de.
Deuxième levée de fonds.
Encore passer une vitesse supérieure.
Ouais, et en fait, deuxième levée de fonds, c'était d'aller tester encore plus le produit sur le marché,
Ouais.
d'aller plus loin encore sur les fonctionnalités, le besoin, le produit. Et au niveau de la technique, se donner tous les outils techniques dont on avait besoin pour mener à bien cette mission. Et donc, on a recodé une grosse partie de l'application, on a pris une équipe un peu plus solide,
Ouais.
on a changé pas mal de choses. C'était dur, c'était quand même pas
Là,
facile.
vous étiez combien du coup à partir de... bah, finalement, c'était la dernière, là, la deuxième levée de fonds. C'était
Ouais.
quand?
Ouais, on a fait deux levées de fonds
Ouais.
et on va faire une troisième pour la fin de l'année.
Ok.
Mais ouais, c'était nos deux premières levées de fonds.
Ok. Et là,
Donc
du coup, vous êtes combien aujourd'hui?
aujourd'hui, on est à peu près quatre à Paris,
Ouais.
à plein temps, et on a une équipe technique à l'étranger d'une dizaine de personnes, quinzaine de
Ok.
personnes.
D'accord.
Donc du coup, ouais,
Ça
ça fait déjà pas mal
fait
de monde quand
ouais,
même.
presque une vingtaine de personnes à gérer,
Ouais.
dont toi.
Exactement. Donc il faut être très structuré, très méthodique, il faut
Ouais.
mettre en place des processus assez rapidement au final pour bien gérer l'avancement. En fait, mine de rien, on est quand même une société qui dépense de l'argent tous les jours, qui n'en gagne pas. Donc on a des contraintes qui sont combien on dépense tous les mois et puis combien de mois il nous reste.
Ouais.
Donc il faut gérer au mieux sa productivité. Et atteindre des objectifs très précis
Ok.
pour être sûr que bah, dans l'espace-temps qui te reste de vie, entre guillemets, de ton entreprise, bah, tu arrives à avoir tout ce qu'il te faut pour passer à l'étape suivante.
Ok.
Donc c'est ça vraiment l'enjeu. On est dans un service, Johnny, c'est un service qui est avant tout adressé à du B2B, du B2C, donc quand même du grand public, et donc ce n'est pas un service payant pour l'utilisateur final qui va faire ses activités. On a trouvé plein de gens qui étaient prêts à payer pour notre service, qui sont plutôt des grosses communautés, plutôt des entreprises. Et donc du coup, ces personnes-là vont payer pour le service, mais ça
Ouais.
va pas faire que on aura, on va dire, des revenus suffisants et conséquents pour que l'entreprise continue.
Ouais.
Donc c'est ça qu'il
C'est vrai que c'est
faut.
des revenus d'opportunité, mais pour le moment, de ce que tu vois, ce sera pas suffisant pour maintenir le rythme en fait que vous voulez
Ouais,
avoir,
bien
quoi.
sûr, le rythme de développement. Mais en fait, c'est des petits revenus, mais ça permet de valider
C'est des
ton
étapes de
modèle,
validation, ouais, ok.
exactement. Et donc, du coup, après, c'est pour ça qu'on va faire une troisième levée de fonds qui va être l'expansion.
Ok.
On a validé beaucoup de scénarios et de modèles. On sait à peu près qu'est-ce qui va marcher et combien ça va générer. Et donc après, l'investissement qui te reste à faire, une fois que tu as investi, et en plus de développer un peu ta tech, c'est d'aller faire du marketing, d'aller faire de la promotion, d'aller en parler, d'acheter des goodies, de faire des activités, des événements. Et tout ça, ça coûte de l'argent. Et les revenus que tu vas générer ne sont pas encore souvent suffisants pour compenser ça.
Voilà.
Sachant que sur un modèle comme le nôtre, c'est quand même une course de vitesse aussi. Il faut aller
Oui,
vite.
parce que tu as une grosse concurrence, tu as plein de services qui se lancent tous les jours. Aujourd'hui, un étudiant dans sa chambre, il peut se mettre à créer un truc qui
Exactement,
va concurrencer ton modèle.
ouais.
Et ok.
Donc c'est
Bon.
ça reste une course à la vitesse, il faut aller vite et il faut le faire bien. Et donc du
Ok.
coup, il faut investir. Il n'y a pas
D'accord.
de secret.
Mais donc, là, en fait, c'est un peu normal, c'est une exponentielle. Donc, l'exponentielle, elle croît doucement au départ.
Ouais.
Est-ce que cette troisième levée de fonds, le but, c'est que ce soit l'explosion
Bon, on espère, on espère. Et on le voit que ça monte, ça prend. Parce qu'on a enfin le service qui est complet, qui
Ouais.
répond bien aux besoins. C'est pour ça qu'on a des gens qui sont maintenant prêts à payer pour notre
Ouais.
service, pour l'utiliser. Donc du coup, oui, c'est vraiment
Ouais, c'est de plus en
encourageant.
plus dans la démarche, dans l'état de, il y a plus qu'à accélérer et prendre ce qui existe déjà et commencer à
Et
aller
ouais, continuer l'acquisition et
le
l'engagement.
ok.
Donc ouais, ça va être un beau challenge. On a hâte de le relever. et c'est génial. C'est une super opportunité.
Si y a des investisseurs qui nous regardent, est-ce que tu as un message pour eux en particulier?
Bah oui, avec plaisir. Venez, venez nous rencontrer, venez découvrir notre produit, notre solution, et même n'importe qui souhaite créer sa communauté, acquérir des membres, engager ses membres auprès de sa communauté à travers des événements et des activités. Bah, Joinit, je pense qu'on a une super solution et un super service, et je serais ravi de vous le présenter en détail et personnellement si vous voulez.
Ok, trop cool. Du coup, j'ai d'autres questions là, qui sont plus orientées à Active Worker. Là, on a parlé de Joinit. Je pense que l'idée, c'est qu'Active Worker, ça peut être des entrepreneurs comme toi. Ça peut être aussi des employés. C'est un peu toutes les gens qui sont en train de faire quelque chose de manière hyper active. Pas forcément hyper actif, mais hyper actif plus loin. Toi, si tu devais, si on commence par les skills de base, imagine que tu prends un mec qui nous regarde, qui est à l'école encore, qui est à Centrale, et tu as l'opportunité de lui dire, bah mec, en fait, quelle que soit la boîte où tu vas, voilà les compétences, moi à ta place, après tout ce que j'ai fait, que ce soit ce que j'ai étudié à l'école ou ce que j'ai étudié a posteriori quand tu devais, avec trois bouts de ficelle, créer ton MVP et tout, bah qu'est-ce que tu lui dirais en fait, comme skills à apprendre? Si on parle sur l'aspect, on va dire, j'aime pas trop ça, mais d'abord technique. Enfin,
Ouais. C'est.
En sachant que c'est un mec qui veut aller évidemment dans une boîte tech pour aller
plutôt,
faire
ouais.
des. Voilà, plutôt ouais. sur du web, du digital.
Je pense que quelque chose qui est hyper important, c'est d'avoir toujours l'objectif de se dire qu'on répond à un besoin ou à un vrai problème. Et qu'on se met à la place de son client en fait. Même n'importe quel développeur ou manager ou product manager ou quelqu'un qui bosse, il faut toujours qu'il se souvienne que bah, il y a quand même des utilisateurs derrière et qu'eux, il faut bien comprendre leurs problèmes, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ça va, comment ça fonctionne. Et ça marche pour tout. Pareil quand j'étais dans le conseil ou même quand j'étais sur mes usines chez Suez. À atteindre des objectifs de performance ou de productivité ou de réussite professionnelle, ça passe par bien maîtriser son environnement, le comprendre et l'écouter beaucoup.
Ouais.
Et ça, je pense que c'est vraiment une force pour moi d'un active worker, quelqu'un qui veut vraiment réussir, qui veut amener son projet quelque part. Il faut qu'il aille se nourrir en fait de tout son environnement, qu'il aille voir toutes les personnes, qu'il les écoute. C'est super d'aller faire un déj le midi avec un collègue qui est peut-être dans une autre branche ou qui fait un poste qui est un peu différent. Et donc, c'est développer beaucoup d'écoute, de compréhension en premier, et pas forcément se doter soi-même de super skills et d'être super fort ou d'être dans une expertise forte. Je pense déjà bien comprendre l'entreprise.
D'abord, aller à la rencontre en fait de tous ces coworkers.
Exactement.
Et pour faire un peu un état de la situation, bien comprendre le contexte.
Ouais.
Avant de se lancer tel baissé, se dire en gros, il faut
comprendre
tel
environnement. Et le succès, c'est de maîtriser son environnement en fait. Une fois que tu maîtrises mieux ton environnement, tu vas tout de suite voir des opportunités qui vont se créer.
Ouais.
Tu vas mieux comprendre qu'est-ce qui se passe, quels sont les schémas de décision dans l'entreprise. Et donc, du coup, une fois que tu appréhendes mieux ça, bah, toi, dans ton travail de tous les jours, bah, tu vas pouvoir te dire comment je fais pour progresser dans
comment
mon
j'ajuste,
environnement, qu'est-ce
qui
me manque, quelles sont les personnes qui arrivent à prendre des décisions, comment elles le font. Et après, bah, si tu as des sujets très techniques, dans le conseil, nous, on avait beaucoup d'Excel à faire.
Ouais.
Il fallait être capable de traiter de l'information.
Ouais,
donc,
ouais.
Un truc de base, c'est comment je fais une base de données dans Excel, comment je nettoie mes données dans Excel. Tu vois, ça, c'est des skills un peu plus techniques qu'il faut, si on n'est pas capable d'apprendre par soi-même, je recommande, il y a plein de chaînes YouTube ou plein de données sur Internet. Mais aussi, parfois, c'est bien de savoir que dans sa boîte, il y a peut-être un mec ou deux ou trois qui savent à peu près bien le faire, ou qui savent mieux que les autres en tout cas, et de ne pas avoir peur d'aller leur dire en fait, est-ce que tu peux m'apprendre? Est-ce que on peut se prendre 15 minutes
pour que tu
me
montres comment ça marche.
Et tu me donnes les 2-3 clés, 2-3 trucs.
Ensuite, moi, je bosse de mon côté et après, je reviens et puis on voit si ça…
Exactement,
ça
ouais. C'est vraiment ça qui permet, je pense, d'être un bon active worker. C'est de savoir aller piocher et capter tout ce qui est les bonnes compétences dans son environnement, dans son métier dans lequel on évolue pour pouvoir justement capitaliser, commencer à progresser soi-même.
Ouais.
Et en fait, un des vrais sujets, au fond, c'est comment je peux aider mon boss à faire une partie mieux de son travail. Parce que si lui, il a moins de son travail à faire, normalement, il va aller vous refaire un peu le travail de son boss.
Ouais.
Donc, si toi, tu arrives à faire un peu plus de travail de ton boss, lui, va faire un peu plus de travail de son boss, et
Et de fil en aiguille,
potentiellement,
ça
tu
crée de la valeur après.
arriveras à monter à la place de ton boss dans les années ou dans les mois qui vont venir,
Ok.
qui suivent. Moi, c'est vraiment le
Donc,
conseil
c'est
que
aller
je peux
au-delà
te
de la fiche
donner.
de poste, en fait, et essayer de
Ouais.
gratter pour en faire plus, quoi.
C'est comprendre son boss là où il a là où il a besoin d'avoir quelqu'un qui prenne de la charge de travail, de sa charge de travail à lui. Et du coup, de pouvoir aller lui donner du temps en fait. En fait,
Ouais.
tu lui donnes du temps pour que lui fasse autre chose. Et cette autre chose, bah, soit c'est un bon boss, normalement on a plutôt des bons boss, j'espère, il va pas l'utiliser pour rien faire, mais bien pour aller aider aussi son boss, aller ouvrir des nouveaux projets, aller peut-être chercher des nouveaux clients, aller faire quelque chose en plus qui serait bénéfique à l'entreprise et au projet. Et donc du coup, lui, ça lui permet de progresser et il sait que bah, c'est parce que toi, en tant qu'active worker, bah, tu arrives à attraper plus de charges de travail, à être meilleur et tu es à l'aise dans ton poste. Et donc du coup, tu crées une confiance, tu crées une dynamique
Ouais.
et donc tu seras potentiellement pas le petit poulain, mais en tout cas, ils savent qu'ils peuvent
Ouais.
compter sur toi et toi, tu progresses en fait, du coup, parce que tu apprends un peu le travail de ton boss au
Ok.
final. Et ça, c'est juste magnifique de pouvoir commencer à aller à faire des choses nouvelles en fait, parce que le travail de
Ouais.
ton boss n'est pas ton travail à toi.
Le travail qui
Donc, du
était
coup,
initialement prévu, on va dire.
exactement, ouais,
Ok.
ça, c'est vraiment,
Donc toi,
je pense,
en
une
fait,
philosophie de
c'est
vie
vraiment
qu'il
ce que
faut.
tu conseilles aux gens, c'est de ne pas se limiter à leur fiche de poste, à leur diplôme, à ce pourquoi on a dit qu'ils étaient faits,
Ouais.
mais d'aller chercher au plus tôt bah, ce dont on a besoin dans ton environnement en proche, quoi.
Ouais,
Et
complètement.
ok.
Bien maîtriser son environnement, une fois que tu le maîtrises, bah, tu peux aller
Ok.
évoluer un petit peu au-dessus. Et ouais, c'est vraiment ça. Je pense que
Ok.
c'est comme ça que tu arrives à bien progresser dans ta carrière. Et c'est une des clés de succès, en fait.
Ok. Bon, du coup, si tu devais décrire un peu le profil type des gens que tu veux recruter, j'imagine que c'est un truc que tu vas chercher, c'est si la personne, en gros, elle est capable de poser des questions pour qualifier, en fait, pas le travail idéal qui est censé être écrit, mais plutôt qualifier ce qui va devoir être fait dans les 2-3 mois, mais qui ne sera pas forcément son travail long-termiste, on va dire.
Ouais,
C'est quelqu'un
faut aussi
qui…
quelqu'un qui soit capable de faire son travail
Ouais, bien sûr.
de tous
De
les
faire
jours bien en fait. Donc déjà, c'est
le
pour ça que je
socle
dis
de
qu'il faut
base.
bien maîtriser son environnement parce qu'il faut quand même être assez à l'aise pour pouvoir aller
Ok.
chercher
Et
un petit peu au-dessus.
donc là, si on reste sur ce truc-là, rester à l'aise, c'est quoi les trucs de base en fait, mais qui semblent peut-être hyper évidentes, mais je sais pas, par exemple, tu parlais d'Excel, l'anglais, le PowerPoint, les trucs où tu te dis, mec, si tu sors d'école, en fait, c'est décisif
Ouais.
qu'au moins tu connaisses ces bases-là, quoi.
C'est ouais. Et alors un truc, on parle de, tu me disais PowerPoint, ça lance. En fait, il y a un truc qui va faire une grosse différence entre un bon PowerPoint et un mauvais PowerPoint. Vous allez vous dire,
Bon.
mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il va nous dire?
Parce que le mauvais, il fait une slide. Mais
C'est
le
même pas
bon,
le. C'est
il fait une slide, mais c'est une bonne slide, en fait.
exactement.
Ouais.
Et en fait, PowerPoint, c'est un outil visuel.
Ouais.
Il faut que ça soit beau à regarder. Et en fait, les gens, quand ils regardent des PowerPoints, ils regardent un PowerPoint. Ils ne lisent pas un PowerPoint. Si tu veux lire un document, tu envoies un Word.
C'est
Tu
ça.
vois? Donc, du coup, il faut que ton PowerPoint, il soit. Et moi, j'en fais un point d'honneur. C'est qu'il faut que ce soit aligné. Il faut que ce soit proportionné. Et c'est l'alignement qui rend en fait le visuel
Ouais, la lecture.
assez agréable. En tout cas, beaucoup plus agréable que quand on voit des mauvais alignements ou alors des bullet points partout. Enfin, et du coup, on n'arrive pas à rentrer dans le contenu parce qu'on est bloqué avec cette barrière visuelle
Ouais.
à l'entrée.
Donc toi, pour toi, l'aspect design en fait des documents que tu sors,
Ouais.
l'aspect mon doc, c'est un produit, c'est un truc important, quoi.
Ah, c'est
En
hyper
plus de
important.
l'aspect
Ouais. Rendre un PowerPoint
ouais.
aligné avec pas des typos dans tous les sens, machin, très simple, avec un contenu qui est OK,
Ok.
sans en faire trop, et ben c'est gagné.
Ok.
Les gens, en fait, quand tu prends un PowerPoint, ils n'arrivent pas à faire l'effort intellectuel d'aller creuser un vrai sujet en profondeur. Il faut d'autres documents et ça ne se fait pas sur une télé, en réunion ou quoi que ce
Ouais.
soit. Par contre, ce qui va choquer tout, enfin ce qui va nuire en tout cas au message que tu vas faire passer, c'est d'avoir des fautes d'orthographe ou alors de l'alignement qui n'est pas top ou alors d'avoir mis des effets visuels. Tout ça ne sert à rien. Il faut un truc très simple, assez épuré, avec le graphique qui va bien, la légende, les trois bullet points, et exprimer en une phrase très, très claire qu'est-ce
Ok.
qu'on veut faire passer comme message. Et après, tu as ton discours oral qui va permettre
D'accompagner.
d'argumenter et d'accompagner.
Ok.
Il faut que visuellement, tu n'aies pas d'agression, et les alignements ou les désalignements, en tout cas, ça en génère, ça crée
Ouais.
intérieurement en fait,
La
des ventes.
frustration.
Et je pense que c'est tous les succès. Je te mets une présentation qui a des défauts d'alignement, qui a des typos qui ne vont pas, qui a des trop de couleurs, ce genre de choses, et le même contenu présenté de manière vraiment structurée, jolie, avec tous les alignements qui vont bien. Tu vas acheter tout de suite celle-là, et l'autre, tu ne vas pas l'acheter. Et
Tu m'as
ça dit
l'avoué.
la même chose. C'est
Ouais.
écrit de la même chose. Vous faites le test si vous avez l'occasion, mais si vous voulez progresser, je pense que ça, c'est un truc qui est hyper important, vérifier les alignements.
Ok, donc ça va bien formaliser quoi.
Quand tu fais trois carrés sur un PowerPoint, il faut que les trois carrés aient la même taille, qu'ils soient bien
Ouais.
alignés, et déjà, tout le monde va être beaucoup mieux.
Ok.
C'est très simple. Il ne faut pas faire un truc ultra design, hein. C'est un rectangle
Ouais.
bleu avec un texte blanc, je sais pas. On utilise
Ok.
beaucoup le bleu et le blanc, donc c'est ça que j'y pense, mais c'est très aligné, c'est très
Ok.
simple, et là déjà tu vas t'enlever en fait tout plein de problèmes
Ok.
un peu problématiques.
Ok.
Donc ouais, la forme, très important,
Donc le 1, le
qu'on soit.
relationnel, être capable de comprendre le besoin du mec en proche. 2, la capacité à formaliser pour mais formaliser un message propre pour justement répondre aux besoins que tu as identifié en 1. Et est-ce qu'il y a d'autres choses qui te paraissent essentielles comme socle en fait de on va dire de compétences, de skills, de valeurs que tu vas chercher chez les
C'est plutôt des soft skills, du coup, je
gens. Ouais.
pense, plutôt que du hard skill. Moi, je suis assez convaincu que quand on rentre dans une entreprise ou quand on rentre dans un poste, oui, il y a certains postes, il faudra vraiment du hard skill. Si tu es développeur, bah, il faut que tu saches développer, ça c'est sûr. Mais un développeur qui ne sait pas faire l'indentation, qui ne respecte pas une sorte les conventions d'écriture, il peut te développer un code super qui va fonctionner de ouf, sauf qu'en fait, tu vas le mettre à un autre développeur ou tu vas l'intégrer à une équipe. Si ça ne respecte pas le schéma d'écriture, si son code il n'est pas lisible, bah, personne ne va pouvoir interagir avec ce développeur. Ça, peut-être des gens qui vont retoucher vont créer des bugs parce qu'ils ne vont pas forcément pouvoir relire de manière simple, et ils ne vont pas être avenants en fait envers cet autre développeur qui ne fait pas d'efforts peut-être pour écrire dans la
Et pour
convention qui va
bosser en
bien.
équipe, en fait.
Ouais. Tu n'as pas de succès personnel, et c'est ça que j'aime bien. En fait, le active worker, c'est quelqu'un qui est pas convaincu que oui, il va être super fort dans
Ouais.
son domaine, et il
Qui va
va essayer d'être
concentrer toutes
le
les skills
fort,
tout seul.
et ça va être le
Ouais.
meilleur. Non, c'est le travail d'équipe, c'est être bien dans son environnement, et là on emmène tout le monde. Je pense que
Ok.
c'est ça pour moi une des clés de succès. C'est oui, parfois il faut avoir des hard skills forts pour
Ouais.
passer peut-être une étape, aller quelque part. Mais une personne qui est à l'aise dans son environnement et qui a cette capacité à être bien intégrée et à savoir bien travailler en équipe, elle a 10 fois plus de chances d'arriver à progresser là
Au
où elle a envie
bout,
d'aller chercher ou obtenir peut-être des projets que parfois elle se dit, mais pourquoi on ne me donne jamais ce projet-là? Je comprends, on ne me donne jamais ce projet-là. C'est
ouais.
toujours quelqu'un d'autre qui le prend à ma place. Mais en fait, il faut se repositionner et se dire, ouais, pourquoi? C'est pas forcément que tu n'as pas le niveau technique pour le faire, peut-être loin de là. Mais juste, si tu es bien intégré dans ton environnement, si tu as bien compris le truc, bah ouais, prochaine fois, c'est peut-être toi qui auras le projet, quoi.
Voilà.
Il y a plus de chances que tu l'aies, en tout cas.
Ok.
Ça, c'est. Et surtout pour un étudiant qui sort d'école, on n'achète pas du hard skill sur quelqu'un qui est junior, en fait.
Ouais.
Donc, il faut quelqu'un qui soit plutôt.
En fait, c'est que la question qui peut se poser, c'est quel type de job je vais prendre? Est-ce que je suis plutôt orienté sur un job de dev de base ou est-ce que je vais plutôt aller faire du community management ou est-ce que je vais faire du projet? Potentiellement, en fait, le mec, il est motivé par les trois.
Ouais.
Toi, est-ce que tu te dis bah ça dépend forcément des aspirations. Est-ce que dans les gens que tu recrutes, bah d'ailleurs qui tu recrutes? Est-ce que tu as des schémas comme ça? Ou est-ce que tu prends des gens qui peuvent être un peu hybrides ou les deux?
Nous, on est une structure qui est toute petite.
Ouais.
Donc tout le monde, tu fais un peu tout en fait.
Ouais.
Enfin, c'est mieux. Et
Donc tu vas plutôt aller chercher des caméléons qui ont un peu des
ça
plusieurs
dépend.
expériences, quoi.
Ouais, après, quand je prends un développeur, je veux qu'il soit très fort dans sa capacité à développer sur un pan spécifique.
Voilà.
Et après, j'ai ouais, d'autres profils où eux, il faut vraiment qu'ils soient plutôt du soft skill fort en fait,
Ok.
pour pouvoir répondre à plusieurs problématiques en même temps,
Ok.
donc vraiment plusieurs sujets. Et moi,
Yeah.
il y a un truc que je pense, et peut-être que plein de gens ne le partageront pas, mais je préfère le dire parce que je sais que
Vas-y, vas-y, clame-le haut et
c'est une
fort.
conviction. C'est que beaucoup de gens, ou majorité des entreprises, des jobs que vous avez trouvés, il y a une fiche de poste, elle est comme ci, comme ci, comme ça. Vous allez démarrer votre travail et 3 mois après, vous ne ferez plus rien de ce qui est marqué sur la fiche de poste. Ça
Voilà.
arrive quasiment
Ouais, c'est
tout le
hyper
temps. Enfin,
courant, ouais.
c'est normal hein, parce qu'en fait, une entreprise ou un projet, c'est sa vie, ça bouge, ça évolue, il y a des phases. Et donc, du coup, bah, quand vous allez postuler, ils ont mis sur un papier une des phases, une des missions
Ouais.
actuelles. Une fois que ça c'est fait, bah oui, il faut faire autre chose, il
Puis
faut faire
c'est
autrement.
en plus de l'aspect instant et état à l'instant T de ce qui est demandé, il y a aussi la lettre au Père Noël.
Aussi, ouais. L'effet
Où
lettre au
toi,
Père Noël
tu vois, tu dis,
qui
moi, j'attends un dev qui sait faire ça dans un point bien précis. En fait, si tu. Mettons que tu aies besoin d'un développeur iOS, tu rencontres un mec qui a l'air passionnant et qui fait du Android, mais tu prends une bière avec lui et
Et
en
là, bah ouais,
fait,
ça
il
fit
a
bien.
l'air. Le fit passe trop trop bien. Et il te dit que lui, il a appris en fait Android il y a 2 semaines et qu'il te montre l'appli qui est ouf. Bah, tu vas potentiellement plutôt le prendre lui parce que tu as eu un super fit. Et tu vas te dire, ouais, mais en fait, d'ici 2 3 semaines, il saura le faire sur iOS. Alors qu'un mec qui a un CV iOS, mais qui. Sur le papier vend mieux, mais en fait dans la réalité il a moins de relationnel, il a moins toutes les soft skills que toi tu recherches, bah en fait tu partiras plutôt sur l'autre.
Ouais, c'est sûr, c'est potentiellement ça. C'est encore plus vrai dans la tech.
Ouais.
La tech, ça va vite, ça change tout le temps. Même quand tu dis que tu es développeur Android, mais tu as dû développer en Android il y a 5 ans ou il y a 2 ans parce que
Ouais, c'est plus
ça
les
a tout
mêmes.
changé, quoi.
Ouais.
Donc en fait, tu peux pas vraiment. C'est pour ça que
C'est pour ça que tu peux
c'est
pas dire
important
à
d'avoir,
quelqu'un,
de sentir
va
que
voir
cette
cette techno,
personne,
quoi. Ouais.
elle est capable de continuer d'évoluer, d'avancer. De progresser et c'est cette volonté-là en fait qui fait que tu as envie d'investir cette personne et de l'emmener avec
Ok.
toi et d'y aller quoi.
Ouais.
Et oui, tu auras toujours des difficultés ou des trucs que tu n'arrives pas à faire et c'est plus long et tu es moins bon que peut-être quelqu'un qui sait
Ouais.
vraiment le faire à cet instant T-là. Ok, mais en fait ton histoire elle s'écrit dans le temps et bah, tu passes des étapes. Après, c'est pour ça que tu as aussi des périodes d'essai.
Ouais.
Parfois, tu peux avoir un super fit avec quelqu'un, ça peut très bien se passer, et puis bah, tu te rends compte que finalement, cette personne, bah, on l'a peut-être trop demandé ou pas assez, ou ainsi de suite.
Ouais.
Donc, tu sais pas trop. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que avoir cet aspect relationnel et être capable d'appréhender ou de montrer que. Moi, il y a un terme que j'aime bien, c'est les compétences transférables.
Ouais.
C'est quoi une compétence transférable? C'est de prendre quelque chose que tu faisais quand tu le faisais, et de dire que tu as acquis une compétence, peut-être, je sais pas, de gestion, de je sais pas quoi, ou de capacité à apprendre assez rapidement, enfin, plein de choses, et qui te permet de juste dire dans cet environnement qui sera différent de celui que tu étais avant, ben, c'est pas grave, ça s'applique encore.
Ouais, ok.
Et en fait, c'est tout là où toi, quand tu vas te présenter, tu vas être capable de montrer que oui, ben, à l'école, ou sur ton projet, ou ce que tu as appris, ça t'a donné cette compétence, mais dans cet environnement-là, elle s'applique quand même
Ouais.
d'une manière différente, mais ça reste valable et donc du coup, tu es potentiellement la personne compétente pour
Ouais.
mener à bien cette tâche-là ou cette mission-là.
Ok. Donc j'étais business développeur et je vendais des produits et du coup je devais prendre des rendez-vous, il y a tout un tas de choses que tu vas devoir refaire, même si tu vends un service et qui en fait seront le socle du business développeur et tu peux le transférer. Bon
Exactement.
là on parle d'un métier fonctionnel mais c'est la même chose pour un dev qui en fait code d'une certaine manière, utilise un GitHub
Exactement.
et va avoir toute une panoplie d'outils qui va pouvoir potentiellement réapprendre si ça change de techno mais qui auront le même esprit en fait.
Exactement. C'est des logiques, c'est des mécaniques de logique ou d'éléments unitaires en fait, de maîtrise d'éléments unitaires qui aujourd'hui dans un stable assemblage d'éléments unitaires permettent de réussir dans la mission. Et si on change d'environnement, on change de contexte, on change de choses, c'est pas grave, ces éléments unitaires, on peut les réassembler et ça refera quand même quelqu'un qui est capable de mener à bien cette mission.
Et d'avancer.
Et c'est quelqu'un qui, en fait, qui, finalement, si tu es capable de faire ça, c'est que tu te connais bien et tu maîtrises ton environnement. Ça en revient au même point pour moi, c'est tu as bien compris. Et d'ailleurs, c'est top. Ça arrive, il y a beaucoup de gens qui savent ce qu'ils font, certains qui savent comment ils le font.
Et très peu,
ils savent pourquoi.
Simon Sinek sort de ce corps. Ouais.
Non, mais c'est vrai, au final, c'est vraiment quelque chose qui est assez fondamental dans toute sa vie. C'est pas non plus pour aller vendre des MacBooks à la terre entière. Non, c'est toi, dans ton travail quotidien, tu t'es posé la question et au final, ça t'aide à t'engager. En fait, je trouve quelqu'un qui est engagé, c'est quelqu'un qui il se lève le matin, il sait pourquoi il va travailler.
Ouais.
Et il sait pas juste que oui, il va faire. Tant de fichiers Excel ou telle formule ou tel machin, il va répondre il va faire tant de calls ou tant de rendez-vous. Non, il sait qu'est-ce qu'il cherche plus loin et pourquoi il le fait. Et ça le motive et ça lui donne envie d'y aller, tu vois. Et c'est ça qui est cool. Et si vous n'avez pas ça et si vous ne trouvez pas ça…
C'est peut-être que l'environnement n'est pas bon du coup, non? C'est pas ça.
Il est peut-être le temps de se poser la question.
En tout cas, pas le bon pour toi. D'aller
voir un peu ce qui se fait ailleurs.
Ouais.
Et c'est pas mal. Et parfois, c'est une communication avec… des collègues ou dans ton environnement qui permet de « Ah ouais, toi c'est ça en fait, toi c'est ce pourquoi tu le fais, c'est ça aussi que tu aimes bien » et ça va vous donner peut-être des éclairages différents, c'est ça qui est génial. Quand j'étais dans le conseil, la majorité du temps c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interviews, c'est passé beaucoup de temps à comprendre, surtout quand tu es envoyé tout seul dans une société pour réaliser une mission, tu es consultant ou prestataire ou prestation intellectuelle. Tu es un peu en milieu hostile, quoi. Tu es là, on t'a demandé une mission, ok, on t'a demandé de savoir faire ça. Mais si tu te cantonnes à ça, tu vas pas faire grand-chose, tu vas pas avoir une expérience incroyable et puis ça va vite t'énerver, puis tu vas vouloir changer de mission. Alors que si tu arrives à aller prendre le temps, c'est un effort, c'est un vrai effort de se dire vas-y, je vais faire un rendez-vous avec quelqu'un, je demande à faire un déj ou un déjeuner ou. Un petit déjeuner ou un café, même à la pause café. Ça fait combien de temps que tu es dans cette boîte? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton job? Ou alors de prendre même l'annuaire de la boîte et de dire tiens, moi j'aimerais bien être dans un an peut-être à ce poste-là. Contacte cette personne.
Et tu lui dis j'ai vu que tu faisais ça, moi je suis à tel niveau, dans tel contexte. Est-ce qu'on peut déjeuner ensemble? Parce qu'en fait.
Tu me racontes ton expérience.
Voilà,
qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton travail quotidien? Surtout quand tu es junior, quoi. C'est le meilleur truc à faire. C'est rentrer dans une boîte et de se dire ok, il y a tous ces gens-là, prenons le temps d'essayer de discuter avec eux. Il y a plein de gens qui vont dire désolé, j'ai pas le temps, je suis occupé. C'est pas grave, il y en aura d'autres qui vont dire oui.
C'est ça.
Et ils seront super heureux de raconter leur quotidien, leur mission, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils le font, par où ils sont passés pour en arriver là. Et pour vous, c'est une source incommensurable de motivation pour être un active worker et y arriver quoi.
C'est vrai que là en France là-dessus nous on surestime beaucoup le risque à faire ça et on sous-estime beaucoup le retour sur investissement de faire ça
et c'est hyper valorisant, enfin n'importe qui
et valorisé aussi en fait parce que la force de faire ça c'est un peu comme des graines que vous plantez. Si jamais vous avez besoin de bosser sur un projet et qu'en fait vous avez déjà rencontré tout le monde, les gens ils vont tout de suite ils vont recevoir un mail ou un coup de fil ou vous passez, vous toquez à la porte pour dire j'ai besoin de toi là-dessus, ça va activer un truc, ils vous connaissent déjà en fait. Et voilà,
tu maîtrises ton environnement,
c'est ça, on y revient toujours.
On travaille dans une organisation et il y a plein de gens autour de soi, c'est ça qui est beau. Et sur Janit c'est exactement ça, c'est donner de l'opportunité de pouvoir mieux connaître ses membres, pouvoir interagir avec ses membres, qu'ils interagissent avec votre communauté, qu'ils la comprennent bien, qu'ils voient toutes les activités à venir, qu'ils y participent.
Okay.
C'est ça qui est top, c'est magnifique.
Du coup, dernier acte, Godefroy, on a parlé de Joinit, on a parlé qu'est-ce qu'un active worker pour toi, qu'est-ce que serait un active worker chez Joinit? Maintenant, la question, l'idée, c'est que tes clients, les joiners, c'est des active workers aussi. Quel conseil tu pourrais leur donner si, au-delà de Joinit, je pense qu'ils ont compris l'intérêt de ton application, qu'ils peuvent centraliser leur communauté, etc. Qu'est-ce que conseil tu pourrais leur donner à un nouveau joiner qui vient de créer sa communauté? À moi, en fait, j'ai créé une communauté sur Joinit. J'ai pas encore pousser la chose. Ma chaîne, elle démarre tout juste. Quel conseil tu pourrais me donner pour que, en gros, ma communauté, elle explose et puis que je me retrouve, on se retrouve tous, des centaines de milliers, à regarder à regarder mes contenus, en fait.
C'est de faire une communauté qui te tient à cœur et comme tu le fais, c'est d'avoir une conviction assez forte sur le pourquoi et quelle est finalement la passion, le centre d'intérêt. Et après, ce qui est difficile, c'est d'acquérir des membres.
Ouais.
Vraiment acquérir des membres. Et au final, ça passe par des outils qui vont t'aider à pouvoir faire la promotion de ta communauté.
Ouais.
YouTube, les interviews comme on le fait là, est un des outils. Après, tu peux promouvoir ta vidéo.
Voilà. Je
Les
peux aller sur
gens.
Facebook, la poster, essayer de créer du bruit en fait tout autour de mon contenu, quoi.
Exactement. Et plus les gens ils vont le voir, plus ils vont être intéressés par cette communauté. C'est bien de créer du digital. C'est mieux je pense en tout cas, d'arriver à avoir un vrai engagement qui est de voir les gens en fait.
Ouais.
Donc, faire l'effort d'envoyer peut-être des invitations un apéro je sais pas, un workshop à faire
Un
une
truc physique,
interview
quoi.
là en fait tu vas créer un lien qui est
Okay.
hyper fort
Ouais.
et en fait tu vas réussir à limiter un peu la versatilité des gens et créer un intérêt qui est plus fort parce que finalement tu les as un peu rencontrés, tu les as un peu touchés au final.
L'aspect versatile, c'est, tu veux dire qu'ils passent d'un truc à l'autre, et qu'ils zappent, quoi, puisqu'on est dans la culture du zap.
Exactement. Et quand tu crées une communauté au début, c'est hyper dur parce que tu n'as pas beaucoup de contenu, tu n'as pas forcément beaucoup de choses à raconter, tu es en train de te construire, tu te cherches. Donc du coup, tu vois, ces premiers membres-là, il faut que ce soit un peu tes… C'était quoi le mot qu'on disait?
Des
C'est assez…
fans, les premiers fans,
Ouais,
les
tu as tes
fans,
fans, c'est vraiment des gens qui
les early
sont…
adopters ou non?
Les adopteurs, c'est des gens qui ont eu une attache forte avec la
Ok.
marque ou le produit ou la communauté. Qui fait qu'ils sont capables d'en parler aussi
Ouais.
à d'autres et d'aller conquérir le monde pour toi en fait.
Ok.
Parce que toi tout seul, tu ne vas pas conquérir grand-chose,
Ouais.
mais plus tu vas avoir de gens qui sont convaincus que ce qu'ils font, et ce n'est pas toi en tant que Quentin Huard, Active Worker. Non, c'est Active Worker est un sujet de thématique, c'est comment être mieux au travail, comment
Ça.
être le meilleur en tant que tel. Il faut investir sur soi. Mais ça, c'est un sujet de fond, tu vois. C'est un
Ouais.
pourquoi, c'est une valeur, c'est quelque chose que tu veux, c'est ça que tu vas promouvoir.
Ouais, et puis c'est un
Les gens,
truc
ils s'attachent à ça.
qui est pas ma propriété en fait.
Exactement.
C'est une idée qui.
Et les gens,
Ouais.
ils vont se regrouper et se créer cette communauté autour de ces valeurs-là. Et donc, c'est ça qui est beau. Et aujourd'hui, c'est toi qui le pousse et qui en fait la promotion, moi aussi. On le fait ensemble aujourd'hui avec cette interview. Et c'est parce qu'on a eu cette interaction
Ouais.
ensemble. Et Journeys, c'est un des outils qui t'aide à faire ça. Donc, un premier commentaire, c'est trouver un peu votre groupe de premiers fidèles qui vont vous aider voilà, à avoir plus de contenu, à avoir des
Ouais.
retours, avoir des
C'est
feedbacks.
en parler quoi, en fait, c'est en parler.
Exactement. Faut créer, faut en parler. Et puis au final, ça va venir assez naturellement. Et puis ils vont te donner des retours. Et puis tu vas dire, ah, t'as pensé à ça, ou tu peux essayer ça, ou tester ça. Hop.
Ouais.
Et t'avances comme ça. Et du coup, tu crées ça grossit.
OK.
Mais il faut être un peu patient, ça prend du temps. C'est pas facile, c'est beaucoup, beaucoup d'efforts et de
Ouais.
l'engagement. Et je pense au final, c'est quelque chose qui est pas si difficile si tu es
Si t'es
convaincu
passionné et
que
puis
tu
que
es.
t'es,
Voilà.
ouais, t'as bien réfléchi. Ok, donc ça c'est pour le newcomer plutôt comme moi. Maintenant, moi je suis, voilà, j'ai mon club de sport ma communauté elle existe depuis 10 ans.
Ouais.
Enfin, elle existe déjà parce que c'est une passion. Ou alors je crée mon club,
Ouais,
mais en fait
on en a
j'ai
plein
fait le tour,
des gros
voilà,
clubs qui
c'est
ont
ça.
des milliers de membres et qui, voilà, on
Qu'est-ce
sait pas.
que, en fait, qu'est-ce que, sans forcément parler de Join It, mais c'est quoi le next step pour ce genre de club? C'est quoi le conseil que tu peux leur donner pour avoir encore plus d'engagement, en fait, dans leur communauté?
Ouais. C'est encore une fois, c'est d'arriver à générer de l'intérêt alors que ça fait déjà peut-être plusieurs années qu'ils sont membres, plusieurs années que voilà, ils ont fait pas mal de choses et créer cet intérêt. Et je pense que la force d'une communauté, c'est les membres qui la constituent en fait. Donc créer du contenu qui va générer des interactions entre les membres plus que ta communauté qui pousse vers tous ses membres.
Ouais.
Quand tu es une grosse communauté, il faut réussir à capitaliser sur des groupes de membres ou des membres plus actifs qui vont aller réactiver ou réengager
Okay.
d'autres membres qui sont déjà membres de la communauté.
Donc, par exemple, si tu as un club de judo, tu fais la communauté des enfants, la communauté des mecs qui vont à la compète, la communauté plutôt des vétérans, voilà. Et puis, tu organises pour chacune de ces communautés des events
Mettre en valeur, tu vois, c'est les
qui
enfants,
célèbrent un peu leur état, quoi.
si tu as des enfants qui sont dans ton club, qui participent à ton club de manière active, c'est dire à d'autres membres, bah, venez voir tous ces enfants qui sont actifs, et c'est en fait les enfants qui sont dans le club qui vont aller peut-être toucher ou parler directement avec potentiellement des parents, mais que leurs enfants ne sont pas dans le club. Et là, ils vont se dire,
Ouais.
bah ouais, c'est vrai que c'est quand même dommage que mon fils ou ma fille ne soit pas plus actif dans ce club-là ou dans ce
Ouais, c'est
moment-là.
ça.
En fait, c'est arriver à mettre en valeur des membres de ta communauté qui vont aller porter ton message et faire
Ouais.
vivre ta communauté
C'est Apple qui
au-delà
avait
de
des. On parle d'enfants.
toi.
Apple, ils faisaient des t-shirts en fait pour les gosses. Et parce qu'en fait, du coup, ils allaient à l'école avec.
Ouais.
Et souvent, c'est trop chiant. Les enfants, en fait, comme ils grandissent, ils changent tout le temps de taille.
Ouais.
Donc en fait, les parents sont contents parce qu'ils avaient, ils pouvaient choisir la taille, donc ils avaient un t-shirt à filer au gamin. Et le gamin, lui, il faisait de la pub en fait à l'école parce que du coup, tous ses potes disaient, ah, mais tu l'as eu où ton truc?
Moi aussi
Et
j'en veux un.
c'est ça, moi aussi j'en veux un. Donc en
Ouais,
fonction de.
c'est des petites stratégies qui sont assez intéressantes pour créer sa communauté. Et là, c'est vraiment faire de l'acquisition.
Ouais.
Une grosse communauté assez mature, elle recherche peut-être moins de l'acquisition et
Ouais.
plutôt de
De
l'engagement ou de la
l'engagement, ouais.
rétention. Donc là, on est vraiment sur une thématique un petit peu différente.
Ouais.
Et c'est des vrais sujets. Encore une fois, c'est la guerre de l'attention. Tu as quelqu'un qui est membre, mais il est membre passif. Comment j'arrive à le rendre membre actif? Comment j'arrive à l'activer?
Comment j'arrive à leur récupérer si jamais il était sur la tangente?
Ouais, parce qu'au bout d'un moment aussi, bah, tu as vu beaucoup le sujet, tu as beaucoup travaillé, donc c'est un peu normal que tu t'en écartes. Donc pour avoir un éclairage nouveau, des envies différentes, bah, il faut capitaliser sur ces membres. Et c'est
Ouais.
eux qui apportent cette fraîcheur.
Ok. Et quitte à en faire des alumni si après ils sortent, on va dire, du cercle, mais qu'ils puissent continuer à véhiculer ton message en fait.
Complètement.
De dire, je fais plus ce sport-là, mais en fait, ça reste un sport génial. Moi, je fais plus trop de karaté, mais c'est parce que j'ai mal au genou. Pour autant, c'était génial d'en faire.
Ouais, et ça se trouve, ton club de karaté, il serait content de t'inviter et
Ouais,
toi, tu
ou
participerais
voilà,
à un de leurs événements, de leur activité, d'aller parler avec d'autres karatékas, et ce serait top.
Carrément, carrément. Ok. Bon, bah du coup, je pense qu'on a balayé un peu tous les thèmes.
Ouais. On aura peut-être l'occasion d'en reparler sur des sujets plus spécifiques
Absolument,
un peu plus tard.
absolument. Bah, du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Godefroy répondra
Ouais.
personnellement à chacun des commentaires. Il n'est pas au courant, en fait. Mais voilà.
Ah,
Et
avec plaisir.
si vous voulez venir voir Godefroy, bah, n'hésitez pas. C'est les locaux, je mettrai quelques images, sont hyper cool. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite. Donc prenez votre abonnement, comme ça bah, vous serez au courant dès qu'il y a une nouvelle interview comme ça qui dure 1 heure et demie qui sera en ligne. Et puis bah, on vous retrouve à la prochaine. Merci beaucoup Godefroy.
Merci Quentin.
Et puis bah, voilà.
Ciao, ciao.
Ciao.